RFI et TV5 Monde vous présentent Afrique Presse.
Hassan Diop.
Bienvenue à tous. Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Ousmane Diaye pour TV5 Monde, Francis Laloupo, Africa numéro 1, et Nadir Djenat, agence Reuters. Autour de deux sujets cette semaine au Zimbabwe, la fin de règne pour Robert Mugabe, victime d'une guerre des clans pour lui succéder. Et puis le Burundi, toujours sous le régime de fer de Pierre Nkurunziza, visé par une enquête de la Cour pénale internationale. D'abord le Zimbabwe. Et cette fin de 37 ans de règne pour Robert Mugabe, c'est-à-dire depuis l'indépendance de l'ancienne Rhodésie. Au moment où nous enregistrons ce vendredi matin, Afrique Presse, Ousmane Diaye, Robert Mugabe n'a toujours pas officiellement démissionné. En revanche, on l'a vu apparaître en public sans faire de déclaration pour bien montrer que le vieux président est toujours vivant. Alors, le clan qui a pris les choses en main avec les militaires soutient l'ex-vice-président Emmerson Mnangagwa, qui est revenu donc au Zimbabwe ces dernières heures. Ceci n'est pas un coup d'État, affirme son clan, mais Robert Mugabe a bel et bien été débranché, pour parler vulgairement.
Peut-être que ce n'est pas un coup d'État, peut-être que c'est un jeu d'ombre en tout cas. Je ne suis pas sûr que l'armée, en tout cas que le clan de Mnangagwa ait totalement pris le pouvoir. Je pense qu'on est dans une phase plutôt de négociation. Comment va se redistribuer le pouvoir? Quelle va être la porte de sortie de Mugabe?
Parce que, avec l'aide d'émissaires du président Zuma, du président sud-africain.
Oui, du président Zuma. Et d'ailleurs, je ne sais pas par les pauvres émissaires de Zuma, parce qu'au fond, et c'est ça le plus dramatique, c'est pas une remise en cause de du mode de gouvernance de Mugabe, ni une remise en cause du mode de fonctionnement. C'est-à-dire, c'est un problème crypto-personnel de deux clans qui s'affrontent, et l'armée a pris fait cause, apparemment pour le clan du dauphin. Donc c'est terrible parce que au fond, même si Mugabe sort, il va sortir par la petite porte, et puis en plus le peuple va être doublement perdant, parce que c'est un clan Mugabe qui est remplacé par un autre clan Mugabe.
Voilà. Disons donc, Francis, que finalement c'est un sursaut à l'intérieur de la ZANU-PF, c'est-à-dire de ce régime au fond qui est en place depuis l'indépendance du Zimbabwe.
Il s'agit en fait d'un règlement de compte à l'intérieur d'un même parti, d'un même régime. Et tous ces gens ont en partage quand même la mémoire de la révolution, ou d'avoir participé simplement, ce sont des acteurs de la révolution, de la libération de la Rhodésie devenue Zimbabwe. Voilà. Donc, ce que disent les militaires? Ils disent, au fond, nous sommes venus restaurer les fondamentaux de la révolution. Ces fondamentaux ayant été dévoyés par le comportement erratique de Robert Mugabe. Et le fait d'avoir limogé son vice-président était une forme, je dirais, d'infraction majeure à la solidarité qui lie évidemment tous ces acteurs de la révolution. Et puis il y a eu, si j'ose dire, excusez-moi, le coup de grâce en quelque sorte. Hein. Le coup de grâce, évidemment, c'est Madame Grace Mugabe qui a décidé donc de se porter à la succession de son mari.
Voilà, donc pas de changement dynastique d'accepté par la ZANU-PF. Oui. En revanche, donc, ce parti reste le parti finalement des anciens combattants, un peu à l'image de ce qu'était l'Algérie post-indépendance. C'est-à-dire la ZANU-PF est un peu similaire à ce qu'est le FNL, les anciens combattants ne veulent pas lâcher le pouvoir.
Exactement, c'est exactement ce système. C'est-à-dire que le Zimbabwe est dirigé par un conglomérat de personnalités, de militaires, de la ZANU-PF. Et l'objectif pour eux est de préserver les acquis de la révolution. Pour eux, Grace Mugabe n'a aucune légitimité, parce qu'effectivement, elle n'a pas participé à la guerre de libération. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'il y a une volonté aussi de ménager Robert Mugabe, pour le symbole qu'il représente.
C'est ça.
Il faut quand même dire qu'il bénéficie quand même d'une popularité encore dans le pays.
Il reste le camarade Bob, comme on dit.
Le camarade Bob, et par son passé justement de lutte contre le gouvernement britannique,
et le
symbole qu'il représente, et dans la volonté de préserver justement le régime en place, il y a donc pour les militaires cette volonté de le ménager, de lui réserver une sortie entre guillemets honorable, d'où les négociations actuellement.
Voilà, et de ne pas se mettre également à dos la communauté internationale. Exactement. Ou l'Union africaine, hein, parce que les coups d'État militaires ne peuvent plus être acceptés, quelles qu'en soient les raisons. Donc finalement, ce putsch ou ce coup de force de palais, ce coup de force de velours, effectivement sophistiqué, c'est sans précédent, Ousmane.
Sophistiqué.
Dans sa forme.
Dans sa forme, c'est sans précédent. Oui. Et puis n'oublions pas, au commencement, les militaires avaient une demande politique très précise. C'est après que le discours, oui, on va arrêter les gens corrompus, s'est mêlé pour servir de justificatif à la communauté internationale. Mais au départ, quand le patron de l'armée parle la veille du coup d'État, il a une demande précise, c'est arrêter la purge. L'agenda était clair. Donc, c'est
qui avait démarré avec le renvoi de l'ex-vice-président.
C'est-à-dire, à la base, il y a une conception très, très patrimoniale du pouvoir que tous ces partis libérateurs, entre guillemets, ont. De Kemon, c'est les FLN en Algérie, l'ANC en Afrique du Sud,
les frères Kassou à Cuba.
Et la ZANU-PF. C'est-à-dire, parce qu'on a libéré les peuples de Ian Smith, du racisme, de l'apartheid, nous avons une sorte d'exception démocratique. L'alternance démocratique ne s'applique pas à nous et que nous sommes le dépositaire légal de la volonté du peuple. Le langage de Mugabe est très intéressant dans le verbe. Quand il dit le peuple, il dit nous. Or,
il est le prolongement du peuple.
Oui, c'est ça. C'est ça qui est terrible. C'est qu'il y a une conception fondamentalement antidémocratique. La conséquence, il considère que le pouvoir doit, l'alternance doit s'organiser au sein de la ZANU-PF. Mmh. Que le destin politique du Zimbabwe est en huis clos.
C'est ça. Mmh.
Et c'est ça, je pense, que qui a entraîné la dérive de
vous
la
Vous avez tellement raison, Ousmane, qu'en voilà. fait, il y a quelqu'un qui va se poser, finalement, c'est qu'au bout de ce coup d'État qui n'en est pas un, n'est-ce pas, ce coup d'État qu'on peut considérer comme un protocole, finalement, de sortie de crise, une crise qu'aura provoqué le camarade Bob lui-même. Mmh. Les choses seront présentées ainsi. Au-delà de cette séquence, la question de l'alternance au pouvoir continuera à s'opposer dans ce pays. Mmh. Et comme vous le disiez très bien, c'est que un jour, il faudra peut-être étudier, je dirais, les tenants et aboutissants de ces mouvements de libération.
Oui.
Ici et là, que ce soit effectivement en Guinée-Bissau, par exemple, qui sont des mouvements qui, au bout du compte, se sentent dépositaires pour l'éternité du devenir et du destin de leur peuple et de leur pays.
En Algérie, l'alternance au pouvoir s'oppose aussi depuis la fin de la guerre d'indépendance et que le FNL règne toujours en maître. Alors, donc, pas de changement de régime, en tout cas en cours au Zimbabwe, comme on peut le constater. Et c'est donc Emmerson Mnangagwa, l'ancien vice-président renvoyé il y a quelques jours, qui refait surface et qui devient l'homme fort de facto du pays, à 75 ans, ancien chef des renseignements. Et c'est bien effectivement la preuve que, pour l'instant, à ce stade, il ne faut pas s'attendre à un changement fondamental du régime politique en place au Zimbabwe, Nadir.
Effectivement, Emmerson Mnangagwa est très populaire au sein de l'armée, hein. Il bénéficie de soutien très important. C'était l'ancien chef des services de renseignement. Et il avait prévenu, hein, quelques semaines, je crois, avant ce coup de force, il avait prévenu, hein, en disant qu'il n'y avait pas de demi-dieu. Il avait dit qu'il reviendrait. Et surtout, il avait dit qu'il n'y avait pas de demi-dieu présent au Zimbabwe, en référence, hein, à Robert Mugabe. Donc c'est un homme puissant, c'est un homme soutenu par l'armée. Et moi, je m'interroge maintenant sur ce que va être ce que peut faire l'opposition. C'est-à-dire que faut pas oublier aussi qu'il y a une opposition au Zimbabwe. Il y a un homme en particulier, Morgan Tsvangirai, même s'il était souffrant, hein, ces dernières années, je crois qu'il est
toujours
encore un peu malade. On sait qu'il est rentré au pays, qu'il s'est exprimé récemment. Et je pense que pour l'opposition, la question est double. Est-ce que la transition va être une transition militaire? Est-ce que aussi la ZANU-PF va garder la mainmise sur la vie politique dans le pays?
C'est ça. En tout cas, Ousmane, tel que les choses sont parties, on s'achemine vers un pouvoir intérimaire qui devrait être dirigé probablement par cet ex-vice-président Emmerson. Mais effectivement, après, il y aura sans doute des élections. Mais à ce stade, on voit bien que la ZANU-PF n'est pas prêt à lâcher le pouvoir.
Attention, moi, intérimaire, j'y crois pas. Je pense que si Mnangagwa s'installe, c'est comme camarade Bob. Hein. Mm-hmm. C'est pour faire son tour. Il y a une logique de tour.
C'est-à-dire d'organiser des élections en les gagnant.
Gagnant d'avance. Mais personne ne dupe. Quand vous écoutez Grace Mugabe, sa dernière déclaration, il dit cette phrase. Monsieur le Président, donnez-moi le job. Mm. Donc en fait, le job ne se donne pas par suffrage universel. Ne soyons pas dupes. Donc les élections, on peut en reparler. Par contre, sur l'opposition, là, il y a une chose qui est dommage et qui va risquer de qui va plomber Morvan Tsvangirai, c'est qu'on était dans une phase juste avant le putsch où l'opposition politique classique était de plus en plus divisée. Les derniers soulèvements au Zimbabwe sont partis des réseaux sociaux. Un mouvement citoyen avait commencé à émerger. Il y a eu des émeutes en septembre, il y a eu des émeutes au mois d'août, novembre de l'année dernière, et c'était pas porté, ça partait pas du MLC, ça partait pas de Tsvangirai, et ça partait plutôt de nouvelles figures des mouvements citoyens. C'est un peu comme ce qui s'est passé au Togo, c'est-à-dire Jean-Pierre Fabre, le leader classique de l'opposition. Le soulèvement n'est pas parti de l'opposition classique, il est parti d'autre part. Donc aujourd'hui, je ne suis pas sûr que Tsvangirai soit en position, en termes d'organisation, en termes de déploiement, en termes de légitimité, de faire quoi que ce soit ou pour faire basculer les choses.
La vraie question, c'est qu'il n'a jamais eu, je dirais, d'élections crédibles, dignes de ce nom dans ce pays. On a quand même affaire à un système de confiscation du pouvoir depuis 37 ans, et toute opposition face à un pouvoir qui se comporte ainsi, en confisquant le pouvoir systématiquement et en muselant l'opposition, en l'intimidant, en la détruisant parfois, toute opposition s'épuiserait.
Il n'y a pas d'espace politique possible pour une opposition.
Donc le pouvoir reste verrouillé au Zimbabwe, même si Robert Mugabe venait donc à annoncer sa démission après quelques 37 ans de règne. RFI TV 5 Monde, la suite d'Afrique Presse, avec la Cour pénale internationale, la CPI, qui a ouvert une enquête donc contre le régime burundais de Pierre Nkurunziza. Bujumbura refuse de coopérer avec la CPI, malgré cette enquête qui a été ouverte. Bujumbura a été pris de court par la Cour pénale internationale, puisque cette enquête a, semble-t-il, été ouverte avant l'échéance du retrait du Burundi de la Cour pénale internationale, donc des fameux accords de Rome. Cette enquête, en tout cas, sur le plan juridique, ne serait pas contestable ni illégitime.
Oui, mais moi, je pense que le problème, il n'est pas juridique, il est politique. Pour moi, c'est deux illégitimités qui s'affrontent. Au Burundi, la légitimité du pouvoir actuel est plus que contestable. La Cour pénale internationale, avec tout ce qui s'est passé, toutes les révélations, c'est plus qu'incontestable. Elle dit qu'il y a une politisation des droits de l'homme. Bien sûr qu'il y a une politisation des droits de l'homme, mais une politisation double. Je pense que le régime burundais a bon ton de crier au complot international et que la justice internationale entre dans un mécanisme de complot. On connaît cette ficelle de communication qui est facile et tragique.
Ni convaincant,
c'est un argument couru d'avance. Je pense que si le régime burundais n'avait rien à se reprocher, je pense qu'il ne serait pas aussi gêné et s'empresserait de sortir de tout processus judiciaire. Parce que le plus grave, c'est que ce n'est pas seulement la CPI, ce n'est pas seulement que le régime burundais ne veut pas que la CPI s'immisce, mais aucune autre commission d'enquête ou rien que ce soit. Donc là, il y a un problème. Par contre, je trouve qu'en ouvrant cette enquête, en se précipitant, en étant dans du juridisme et dans une bataille juridique comme ça, la CPI, quelque part, ne sert que le régime en place, parce qu'ils n'ont plus aucune légitimité sur le continent, en tout cas.
Alors justement, Francis, beaucoup de monde se réjouit de l'ouverture de cette enquête, notamment les défenseurs des droits de l'homme burundais qui ont multiplié les communiqués. En revanche, les dirigeants africains sont loin d'approuver l'ouverture de cette enquête, à commencer d'ailleurs par deux chefs d'État de la région, à savoir l'Ougandé Yoweri Museveni et le président tanzanien, pour ne citer que deux.
Je ne sais pas s'il faut prendre l'opinion des dirigeants africains comme élément d'appréciation.
Mais cette opinion compte, Francis.
Oui, elle compte aussi. Mais ce qui compte surtout, ce sont les faits. Oui. Parce qu'il faut quand même aller à l'origine de cette crise, qui a été déclenché du fait d'une interprétation subjective, de la Constitution par M. Pierre Nkurunziza pour se représenter pour un troisième mandat qui était fortement contesté par l'opposition. Deux ans plus tard, nous avons au bas mot 2000 à 3000 morts, des dizaines de milliers de citoyens burundais déplacés dans les pays voisins, aujourd'hui dans des camps de réfugiés. Nous avons une série d'exactions, de tortures qui ont été documentées par des enquêtes à la fois de l'ONU et également de certaines ONG. Enquêtes évidemment contestées par le pouvoir burundais. Nous avons aujourd'hui, à Bujumbura, quotidiennement, des violences qui sont commises. Il faut une réponse. Cette enquête se justifie, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a eu quand même depuis deux ans plusieurs tentatives de médiation, que ce soit par les organisations de sous-régionales, que ce soit par l'Union africaine ou encore par l'ONU. Le Burundi de Pierre Nkurunziza a rejeté la médiation de l'Union africaine, qui voulait déployer d'ailleurs une force de police sur place pour pouvoir justement contenir, endiguer les violences. Rejeter les bons offices de l'ONU. Rejeter l'Union l'Union européenne, lui disant voilà, surtout ne vous immiscez pas. C'est une
démarche. Ok, l'enquête est justifiée, mais à quoi ça va aboutir? Franchement, est-ce que ça peut inverser, oui, je dirais, la tendance, cette tendance à la brutalité du régime Nkurunziza?
Il vaut mieux, je veux dire, poser des actes plutôt que de ne rien faire face à une situation comme celle-là, parce qu'il en va quand même de la vie d'êtres humains. Nous avons affaire à une situation extrêmement sensible, et il faut quand même rappeler que dans une situation où les violences sont documentées quotidiennement dans un pays, l'État, quand même, est le premier à garantir la sécurité de ses citoyens. Donc il est normal qu'on lui demande des comptes.
Absolument. Nadir ?
Alors, moi, il y a deux choses. Tout d'abord, je pense que les enquêteurs de l'ONU, même si le gouvernement, les enquêteurs de la Cour pénale internationale, même si le gouvernement de Bujumbura n'a pas l'intention de coopérer, va pouvoir quand même travailler. Parce qu'il y a eu déjà des enquêtes qui ont été menées, notamment par plusieurs commissions de l'ONU. Donc ils pourront donc travailler sur ces documents. Et surtout, les enquêteurs de la CPI pourront interroger par exemple les Burundais qui ont fui le régime. Il y en a à peu près, selon l'ONU, 420 000 qui ont fui et qui se sont réfugiés dans les pays voisins. Et donc ils pourront les interroger. Et la dernière commission d'enquête de l'ONU a prouvé qu'il y avait bien eu des crimes contre l'humanité commis au Burundi. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi une bataille médiatique. Une bataille médiatique que va mener le gouvernement de Bujumbura, parce que vous parliez aujourd'hui, vous dites que le régime n'a plus beaucoup de légitimité sur le continent africain, mais je pense qu'il peut quand même engranger des soutiens, parce que on touche là un point sensible, c'est la Cour pénale internationale. Depuis son entrée en fonction en 2003, les magistrats de la CPI ont ouvert 10 enquêtes dans 9 pays, dont 8 sont en Afrique. Il y a vraiment ce sentiment en Afrique que c'est une cour qui ne juge que les dirigeants africains, et c'est une cour qui est quand même...
C'est un fait.
Mais je pense que le gouvernement du Burundi peut jouer là-dessus en essayant d'engranger des soutiens.
Concrètement, Ousmane Diaye, est-ce que à court terme, est-ce que dans l'immédiat, maintenant que cette enquête est publique, est-ce que ça va, oui ou non, freiner les exactions du régime burundais, du régime Nkurunziza?
Je crois pas. Pourquoi ? Parce que c'est une sorte de tentative de rattrapage un peu désespérée. Je m'explique. C'est-à-dire, Francis disait que c'est mieux que rien. Ce qui est terrible, c'est qu'on en est là. Il ne faut jamais oublier que quand il fait son coup de force, on partait d'où ? La communauté internationale envisageait de mettre en place une force d'intervention. Donc, on part d'une logique d'intervention armée pour le stopper, à une logique où on essaie de mettre une pression politique dont je doute de l'efficacité. La seule efficacité que ça peut empêcher, de façon très pragmatique et concrète, à certains barons du régime de voyager. Puis c'est tout. Et encore, parce que quand même, on voit que certains États n'appliquent pas le principe.
En tout cas, la réaction de Bujumbura, c'est le bras d'honneur. La réaction de Bujumbura à l'ONU et à la CPI, ce sont les manifestations chaque semaine à Bujumbura pour vilipender l'ONU.
C'est le bras d'honneur permanent au monde entier. C'est-à-dire que le Burundi, aujourd'hui, depuis Nkurunziza, est seul contre le monde entier. On peut pas...
Il y a quand même des soutiens africains.
Quelques pays qui le soutiennent.
Je peux vous citer deux ou trois pays où vous verrez, évidemment, quelle est la culture politique de ces États-là. Non, vous avez raison tout à l'heure de dire, quand on n'a rien à se reprocher, il n'y a pas de raison de refuser l'enquête, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, quels que soient les reproches qu'on puisse faire, par ailleurs, à la Cour pénale internationale. À la limite, il vaut mieux laisser l'enquête se faire et justement démontrer par la preuve, plus tard, que l'on avait raison contre le monde entier. Plutôt que de multiplier des rhétoriques, soi-disant anti-impérialistes, prétendument nationalistes, c'est aujourd'hui, je dirais, la seule posture de ce pouvoir, le seul discours qui tient lieu de discours politique, d'ailleurs, cette posture.
Voilà, mais est-ce qu'on ne peut pas facilement opposer ce type de discours à la CPI, qui a quand même, malgré tout, s'est focalisé sur l'Afrique, et on a vu, le premier procureur a commis des dérives.
C'est pour ça que je parle de deux illégitimités qui s'affrontent. Il peut sortir...
La légitimité d'un État est quand même beaucoup plus sensible pour les peuples que celle de la CPI.
Oui, mais la légitimité de la CPI est sensible parce que la CPI est supranationale.
Oui, elle est supranationale, avons affaire à un État.
La CPI, c'est le seul tribunal au monde qui peut, de façon politique, aller prendre un chef d'État et régler et solder de façon judiciaire en contentieux politique.
Il n'y a qu'un seul précédent. Le cas Gbagbo, c'est avec Laurent Gbagbo. Mais pour l'instant, je ne pense pas que la CPI...
À la demande demande de l'État ivoirien.
Oui, mais contester une demande dont les révélations de Mediapart montrent clairement que c'est contestable. Non, mais
voilà, le débat n'est pas épuisé, mais cette émission est terminée. Merci à vous, Ousmane Diaye, Francis Lalupo d'Africa Numéro 1, Nadir Jenat, Agence Reuters, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Vous pouvez retrouver cette édition sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Grand merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.